La musique.
Carabana maximum.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour
vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde à Liège, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses, bizarres. Aujourd'hui, nous recevons Louis Frère. Bonjour Louis.
Bonjour Christophe.
Louis est bassiste, est un bassiste qui fait partie du, est un jeune bassiste voilà, qui fait partie du, ouais. du collectif L'Œil Collectif basé à Liège justement en Belgique. Alors peut-être pour commencer la traditionnelle interrogation, peux-tu nous décrire Louis quelle fut ta formation musicale?
Bah oui, j'ai commencé la basse vers 12 ans.
Ouais.
Et donc à la base j'étais plutôt intéressé par le rock en fait, de mes 12 à mes 13 ans la seule musique que j'écoutais c'était AC/DC en boucle.
Yeah.
Et petit à petit j'ai rencontré des musiciens de jazz genre vers mes 15-16 ans chez qui l'improvisation était assez importante, du coup on a créé un groupe de jazz rock si j'ose dire. Et donc voilà, là, c'est là qu'est né mon intérêt pour l'improvisation.
Ouais.
Et petit à petit, j'ai rencontré alors par après des musiciens qui s'intéressaient à l'improvisation libre, notamment Tom Malmandier, avec qui on a vite commencé à jouer ensemble en laissant tomber les structures de jazz traditionnelles, les standards et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à l'improvisation, en tout cas. Et parallèlement à ça, je suis rentré au conservatoire.
Ah voilà, ouais.
Ouais, à Anvers. J'ai fait le jazz en basse électrique et en contrebasse. Ouais.
Bon, bah, c'est pas vrai.
J'ai appris plein de choses. C'était pas toujours facile non plus.
Venant du rock. Mais ouais. Alors, j'ai vu que tu avais sur ton site aussi, enfin sur le site de l'œil collectif, à la page qui t'est consacrée, j'ai vu que tu avais suivi des workshops. Et on évoque souvent ça dans notre émission, mais sans rentrer trop dans le détail. Alors c'est peut-être l'occasion de dire, d'expliquer. Donc c'est une formation sur une période très courte, une semaine en général.
Oui, c'est ça.
Et mon interrogation, c'est qu'est-ce que ça apporte? Parce que qu'est-ce que tu peux apprendre de quelqu'un en une semaine?
D'abord, ce qui me paraît important, c'est de contextualiser ça. La plupart des workshops que j'ai eus, c'était au Festival Météo à Mulhouse.
Ah, oui. D'accord.
Où, donc là, il faut s'imaginer que de 10 à 16 heures, on avait les workshops avec des musiciens qui participaient au festival.
Ouais.
Sur le temps de midi, on allait voir un concert. Et puis toute la soirée des concerts, donc on était pendant une semaine non-stop dans la musique.
Ah oui, c'est intense.
Je dirais que ça vient remuer. Ça va tellement profond que ça remue plein de choses. Et puis on ressort de là avec... plein de nouvelles idées. Donc, ouais, le fait d'être avec une personne pendant une semaine seulement, c'est court, ça ne permet pas un travail sur du long terme, mais c'est comme si la personne qui dirige le workshop vient mettre plein de petites graines et puis que c'est à nous de les faire pousser, quoi.
Ouais, ouais. Donc, c'est son point de vue à lui. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un cours magistral, quoi.
Oui, non, après, c'est surtout vu qu'il s'agit d'improvisation et il s'agit de la manière, d'une manière personnelle d'aborder la musique à chaque fois. Et donc, chaque maître de stage, on va dire, que j'ai eu, assumait totalement que c'était un point de vue personnel.
Oui, bien sûr.
Aussi par rapport aux concerts, on discutait des concerts qu'on avait vus la veille et tout ça.
Alors moi je m'intéresse beaucoup à la basse et je voudrais savoir selon toi la spécificité de la basse, tu l'as dit toi-même dans ton apprentissage au conservatoire, tu commences par le jazz forcément, tu n'as pas de classique en guitare basse,
ouais.
Et encore moins en guitare basse électrique quoi, en guitare basse quoi, tout simplement. Est-ce que ça influe selon toi sur le jeu des bassistes?
Oui, carrément. Carrément. Bah, en tout cas, pour moi, c'était quelque chose d'assez difficile à comprendre et savoir comment manipuler ça. Et, parce que forcément, on est amené à aller voir ailleurs. C'est, comme tu dis, un violoniste ou un pianiste, il peut aller voir facilement dans la tradition. Tandis que nous, on est plus amené à aller voir du côté des guitaristes, ce qu'ils font, comment ils manipulent leur instrument, du côté de la contrebasse, et faire plus un mélange de tout ça, quoi. Après, ce qui ressemble plus un peu à une histoire au niveau de la basse électrique, je trouve que c'est dans tout le répertoire de la soul, du funk et tout ça, là, il y a un peu de matière, mais ça reste maigre comparé à certains autres instruments.
Ouais, c'est marrant que tu dises, tu parles de soul, de funk, là, on parle de musique vraiment très rythmique, et... Pour évoluer dans les musiques improvisées, est-ce que c'est pas un défaut qu'on a, qu'ont les bassistes, pardon, d'être un peu trop rythmique, on peut reprocher de bourriner, de toujours vouloir faire du rythme. Est-ce que c'est et presque évoluer dans les musiques improvisées telles qu'on les connaît nous, est-ce que c'est pas contre nature à la basse?
Ah bah, c'est intéressant comme question. Je dirais que tout dépend de la manière dont c'est amené. Un rythme, pour moi, un rythme peut tout à fait avoir sa place dans une musique expérimentale ou improvisée ou quoi que ce soit, tant que ça prend pas toute la place, en fait.
Ah oui, d'accord.
Ou bien, de faire attention à la personne qu'on a en face de soi. Si moi, je joue par exemple souvent avec Xavier Fertin, qui elle vient beaucoup plus de la musique contemporaine. Dans tout ce répertoire-là, avoir un groove de basse qui dure pendant 5 minutes, c'est un peu bizarre. Donc il faut voir comment les deux mondes différents peuvent cohabiter, je dirais.
Ouais, tout à fait. Et, on n'a pas annoncé le premier morceau qu'on a écouté. C'était
le premier morceau du premier album de Bobby de Nazareth, Open Your Eyes.
Bon, on va en reparler de Bobby de Nazareth, mais je voulais qu'on parle de... Parce qu'on va écouter un extrait de ton solo. Qu'est-ce qui te pousse à faire un solo, déjà dans un premier temps, et puis j'aimerais que tu nous expliques ton dispositif, s'il y en a un, des effets, tout ça.
C'est très naturel. Ce qui me pousse à faire un solo, c'est que... je suis resté pas mal seul en fait cette dernière année parce que j'ai eu un bébé il y a 9 mois et donc forcément aller jouer à gauche à droite et tout ça c'est moins facile donc comme j'avais du temps à la maison quand il faisait sa sieste ou quoi j'allais m'enfermer à la cave et voilà donc en travaillant tout seul forcément pour moi ce qui sort naturellement c'est de jouer en solo. Et donc, cette pièce-là qu'on va entendre, ou en tout cas l'extrait, c'est avec une basse électroacoustique. Donc, avec une caisse quoi, de résonance.
Ah oui, d'accord.
Et alors, je pose un e-bow sur la corde de ré. Je suis venu à ce procédé-là un peu par hasard, mais en posant des objets sur la table d'harmonie.
D'accord.
J'ai remarqué que ça les faisait parfois vibrer ou que ça changeait la manière de vibrer de la corde. Et donc, on obtient toutes sortes d'harmoniques et tout ça qui sont très chouettes. Mais ce qu'il y a de difficile avec ça, c'est que des fois... j'ai choisi quelques objets. Par exemple, il y a un marteau que je pose sur la table. Comme c'est lourd, ça change pas mal le son. Mais si tu le poses d'une manière ou que tu le bouges de 2 ou 3 cm ou même millimètres, ça change complètement le son. Et du coup, pour avoir un minimum de contrôle quand même là-dessus, j'ai écrit une genre de conduite en disant à tel moment je vais poser tel objet, je vais le faire bouger de telle manière.
C'est exactement la question que je voulais te poser. Est-ce que tu improvises totalement ou est-ce qu'il y a, comme tu dis très bien, une conduite une écriture finalement même si c'est,
Au début je voulais éviter parce que j'aime bien de fonctionner juste en improvisant et tout le processus est venu de manière très instinctive mais à un moment ça s'est vraiment imposé à moi parce que pour vraiment faire ce que j'avais envie de faire, ça m'a paru être un outil pratique.
D'accord. Tu as joué il y a quelques jours, je crois. Alors, c'était où, je ne sais plus.
La zone.
Oui, en Belgique, c'était. Ouais. Ouais. Ton solo, j'ai vu ça sur Internet. Tu sais, on est tous connectés maintenant. Ouais. Et c'est pas exactement ce qu'on va entendre maintenant. En quoi ça a évolué?
C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le. Enfin voilà. Du coup, le truc avec la basse acoustique couchée à plat. Ouais. À plat. C'est vraiment une pièce quoi. Dans ma tête, c'est un morceau part entière. Tandis que là, quand j'ai joué il y a quelques jours, c'était juste une improvisation quoi. Ouais. Très différente dans le sens où c'était à la basse électrique avec tous mes effets.
Ah oui, voilà.
L'ampli assez fort.
Oui. D'accord. Ouais, voilà. Tu utilises donc des effets, des saturations, j'imagine.
Ouais. Ouais.
C'est bien ça. Hein.
Oui, on pourra en parler. Il y a tout le domaine de la basse préparée aussi qui m'intéresse très fort.
Ah, mais oui. Bon, et je propose qu'on écoute avant. Voilà, c'était le solo de Louis Frère. Alors, Louis, nous allons parler de ton collectif, du collectif auquel tu participes, L'Œil Collectif. Bah, tout simplement, je voudrais savoir quand, comment, pourquoi ce collectif s'est-il créé à Liège ?
Alors, il s'est créé il y a 6 ans environ. Et pour des raisons tout à fait différentes que lesquelles pour qu'il, de pour qu'elles il existe aujourd'hui.
Ah ok.
C'est parce qu'en fait on était genre 7-8 musiciens à avoir genre 5-6 groupes ensemble. Ah, oui, comme ça se passe souvent dans les petites villes, je crois, on est tout enthousiaste. Ah, je veux faire un projet, moi aussi, et puis on n'est que 7-8, donc... Voilà, et il fallait simplement organiser les répètes et s'organiser un peu ensemble, oui, pour les répètes, pour les concerts. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis en tant que collectif au début.
D'accord.
On a organisé nos soirées ensemble. Et puis, petit à petit, on a commencé à improviser ensemble de plus en plus.
Ouais.
Et encore une fois, je reviens avec le festival Météo, mais ça, c'était important pour nous quand même, parce que c'est, on s'est retrouvés là-bas plusieurs fois ensemble, et ça nous a mis un peu sur la même longueur d'onde, quoi. Ouais. Vraiment sur, ok, ça, moi j'aime bien, ah, t'aimes bien ça, moi j'aime pas. Au moins, on savait un peu les goûts de chacun, et on avait des références communes, en fait. Ouais. Et ça nous a tous vraiment plus ces expériences à Mulhouse, et du coup bon, c'est moi qui dis ça comme ça, mais c'est un peu comme si on essayait de rapporter un peu tout, de faire vivre toute cette vie qu'on a pu avoir là-bas,
cette expérience
chez nous, quoi. On a commencé à organiser des soirées où on invitait des gens à présenter un solo ou un duo en trio, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas inviter des grands groupes non plus. Et important pour nous, donc on les invite à jouer, mais on les invite à jouer avec nous aussi.
Ouais, d'accord.
L'aspect de la rencontre est vraiment super important pour nous. Mmh. Et voilà, donc on trouve quelques astuces pour essayer d'organiser régulièrement des concerts et de pouvoir quand même ramener du public. Parce que...
Bah oui.
On ne peut pas organiser une soirée une fois par semaine, par exemple.
Ce serait trop.
Oui, ça serait trop. Liège, c'est une ville de 200 000 habitants. Voilà. Il faut voir les limites qu'il y a, quoi. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de collaborer avec plusieurs salles différentes. La semaine dernière, on a joué à La Zone, qui est plus orientée vers le punk, le rock à la base.
Ouais.
Et on peut jouer vraiment fort. On joue dans une autre salle qui s'appelle L'Envers, où là, c'est beaucoup plus acoustique. Il y a pas mal de jazz là-bas. Et puis, avec divers endroits, comme ça, on rencontre différents publics. Et tout.
Ah oui, dans chaque endroit, à chaque endroit est dédié à un genre, si tu veux. J'ai vu qu'il y avait les soirées jazz off, je crois, c'est à L'Envers, justement.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc chaque endroit a une spécificité, esthétique.
On essaie de jouer avec les spécificités de l'endroit pour mettre la musique en valeur. Après, on joue avec ça aussi, c'est-à-dire à La Zone, c'est déjà arrivé qu'on programme de la musique qui ne va pas fort du tout pour amener quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre dans cette salle-là, quoi.
Ouais. La Zone, c'est plus rock, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais. Et les soirées jazz off, alors off, ça veut dire éteint, si je me souviens ?
C'est ça.
Pourquoi ?
Alors,
ça fait penser au nom de jazz, un peu, aussi.
Ça fait un peu penser à ça. En fait, le gars qui s'occupe de la programmation à L'Envers qui avait proposé ce nom-là. Et donc, nous, il nous laisse une carte blanche, en fait.
C'est pas vous qui êtes à l'origine.
C'est pas nous qui avons décidé Jazz Off, mais on a cautionné parce que, il programme beaucoup de jazz et là, c'est.
Ah, ok.
C'est un peu une opportunité d'entendre autre chose aussi.
Alors, tu parles du festival Météo. Je signale que dans 15 jours, nous recevrons Fabien Simon, qui nous présentera sa dernière année en tant que programmateur. On le retrouvera dans un autre festival en région parisienne, mais ce sera sa dernière programmation. C'est donc le 8 juin, on le recevra. Je voudrais que tu nous présentes les autres membres du collectif, les autres musiciens.
Alors, je parlais en premier de Tom Malmandier. On a beaucoup porté le collectif à nous deux. Enfin, ça change au fil du temps, hein, mais ouais. On a beaucoup porté ça à nous deux pendant un temps. Voilà, lui, c'est vraiment avec lui que j'ai commencé à improviser. Et c'est lui qui m'a emmené à Mulhouse aussi. Et donc, maintenant, il est actif aussi dans d'autres projets. Ouais. Il joue en duo avec Farida Amadou,
ouais,
à la basse électrique, ouais, aussi. Ouais. C'est un projet qui s'appelle Nystagmus.
Lui, il est batteur. Hein, lui.
Il est batteur, ouais. Oui, j'ai oublié de dire. oui, il y a un autre batteur, Marius Morsom. Il y a Xavier Fertin qui joue de la clarinette.
Oui, alors Xavier, nous l'avions reçu il y a quelques années, en 2015, puisque elle avait eu la gentillesse avec sa partenaire Camille Émail de venir jouer pour notre festival, le premier festival des oreilles libres en 2015, avec donc leur duo qui s'appelle encore peut-être d'ailleurs Oxque Fixu,
c'est ça. Oui.
Alors, les réponses, tu sais.
Du coup, oui, on pourrait parler un peu de Camille aussi, parce qu'on a quelques personnes qui gravitent autour du collectif, qu'on invite souvent.
Mais,
ouais. C'est des liens d'amitié aussi.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et, oui, moi, je trouve ça intéressant de voir aussi que dans le collectif, donc tous les gens que je cite, ils viennent de milieux musicaux, on va dire, assez différents.
Ouais.
Tom, il a fait pas mal de hip-hop, il en fait encore beaucoup.
Tiens donc, ouais.
Ouais. Marius, il a étudié le jazz aussi, il joue dans un groupe de pop. Xavier, elle fait de la musique traditionnelle alsacienne.
Oui, c'est vrai, oui, je me souviens de ça.
Elle fait de la musique contemporaine aussi. Voilà, il y a tous ces mélanges-là qui sont amusants.
Mais ouais. Et alors, vous avez un lieu donc pour jouer, ok, mais est-ce que vous avez un lieu dédié pour répéter, tout simplement ?
Non.
Ah.
Non, c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup. Mais voilà, quand on se voit, c'est chez les uns, chez les autres.
Ah, okay.
Mais on n'a pas un local dédié à la musique.
D'accord.
Et en fait, c'est... Il y a des fois où des mois où on se voit que lors des soirées qu'on organise, quoi.
Ouais, ouais.
C'est pas toujours facile, comme il y en a toujours bien un qui est parti à gauche, à droite, tout ça.
Alors, quelles sont vos activités ? J'ai vu que tu as parlé de jazz off, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai vu qu'il y avait des ciné-concerts également.
Oui, donc il y a une autre salle à Liège qui s'appelle Le Hangar, où ils nous ont demandé de faire de la musique sur des films muets tous les mois.
Ah ouais ?
Oui. Et donc là, ça fait à peu près un peu plus d'un an que ça dure. Il y a à chaque fois des cycles de quatre films. Le premier cycle, c'était sur Murnau. Après, on a fait sur Buster Keaton. Et là, c'est sur un thème qui est la monstruosité.
Ouais. Freaks, j'imagine, non ?
Comment ?
Freaks, non ?
Freaks, non.
Non, il n'y a pas ça, vous avez... Ouais.
Non, là, on a fait le cabinet du docteur Caligari la dernière fois.
Oui, je suis bête.
Donc, comme à chaque fois, c'est quand même un sacré défi de jouer pendant une heure et demie sur un film. Ah
ouais. Mais alors, est-ce que c'est une improvisation totale ou est-ce que vous répétez quand même une trame ?
C'est de ça dont j'allais parler. Ouais. On a un peu essayé tout ce qu'on pouvait.
Oui.
Et donc, souvent, il y a quand même une trame qui ressort. Ouais. En général, en fait, il y a un des membres du collectif qui décide de gérer le film et alors qui écrit soit des petits thèmes, soit quelques consignes, voilà, des choses comme ça. Et puis, en fonction du temps qu'on a, des fois, on peut le préparer à fond, faire plein de répètes. Et d'autres fois, on se voit juste une fois le jour même pour dire, bon, à tel moment, il y aura ça. Et puis, voilà. voilà, ça nous apprend à gérer un peu cette limite qui peut exister entre l'improvisation et l'écriture, quoi.
D'accord. C'est bien ça. Et alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des actions pédagogiques. Notamment, j'ai vu un truc qui m'intrigue beaucoup, c'est l'atelier courant d'air où il est question d'enfants bruitistes. Alors ça me branche bien.
Oui, c'est une association qui travaille dans un quartier assez défavorisé de Liège qui s'appelle Bressou. Ils font des ateliers créatifs et ils nous ont demandé... en sachant très bien la musique qu'on faisait, tout ça, de venir faire des ateliers avec les enfants.
Ouais. Qu'est-ce qui les motive selon toi? Parce qu'ils pourraient faire du hip-hop ou des trucs plus évidents, plus faciles.
Ouais, bah c'était, je crois que c'était simplement les goûts musicaux de la directrice là, de cette association là, et surtout, je pense que c'est surtout l'énergie du free jazz par exemple qui lui avait bien plu dans ce qu'ils font dans les ateliers de peinture par exemple. Il propose beaucoup aux enfants de s'exprimer de manière assez...
Avec le corps, j'imagine.
Assez corporelle, oui, c'est ça. Et voilà. C'est un sacré défi d'amener ça à des enfants, parce que c'est pas spécialement... Enfin, quand on leur dit qu'ils vont avoir un atelier de musique, et en fait, ils ont des attentes assez précises.
Ah ouais.
Ils veulent apprendre à jouer de la guitare ou des choses comme ça.
Et donc, c'est pas ça du tout.
Et nous, à la base, on venait pas du tout dans cette optique-là, du coup. Et il s'agit de concilier les deux, quoi.
Ouais, ouais. Alors, vous faites quoi, concrètement, avec les enfants ?
Eh ben alors, là, ce que j'ai fait, c'est que, d'une part, j'ai essayé d'aller chercher un peu dans le répertoire des jeux de doigts, des chansons traditionnelles et tout ça, et voir comment ça pouvait être un point d'accroche pour les enfants,
ouais.
Et puis les amener à plus faire du bruit quoi, avec ça. Par exemple, il y a une histoire d'une petite poule qui se promène, alors on fait le bruit de la poule, et puis elle pond un œuf, et puis après, il y a quelqu'un qui voit l'œuf, puis quelqu'un qui prend l'œuf, qui le fait cuire, et tout ça, et donc on met tous ces actes-là en son, quoi.
Mais alors, est-ce que c'est à l'aide d'instruments traditionnels ? Il me semble avoir vu une vidéo où les mômes, ils utilisaient des tuyaux, des trucs comme ça.
Oui, alors il y a ça aussi. C'est pas des instruments traditionnels qu'on utilise avec eux, parce que ce qui m'embête un peu avec les instruments traditionnels, c'est que... Oui, on peut faire du son avec directement, sans aucune technique.
Ouais.
Mais en fait, c'est quand même plus compliqué que si on amène une casserole ou des tuyaux, des objets de la vie tous les jours. Ouais. Ça les attire plus aussi, les enfants, de voir des objets de la vie tous les jours. Et puis, on peut faire du son avec.
Bien sûr, elle est détournée. Oui, j'ai vu ça. Je me souviens plus très bien quel genre d'objet, d'ailleurs. Ouais. Mais alors, peut-être, qu'est-ce que, selon toi, hein, encore une fois, qu'est-ce que ça leur fait aux enfants d'avoir affaire à des pratiques artistiques, musicales, hors normes ? Qu'est-ce que ça peut leur apporter, selon toi ?
Ça peut... C'est une bonne question. Ça peut leur ouvrir l'esprit sur... simplement, ça peut ouvrir leurs oreilles, en fait. Qu'ils peuvent simplement s'émerveiller d'entendre que quand on fait bouger les doigts dans l'eau, quoi, ça fait un son qui est joli.
Moi, j'ai l'impression aussi qu'ils sont peut-être moins réticents, tu vois, par rapport à un adulte auquel on ferait découvrir des musiques bizarres, comme on dit ici souvent, ça va être tout de suite le rejet, quoi. Tandis qu'un j'ai l'impression, hein, moi, que les enfants sont moins, ils sont moins formatés, tout simplement, ils ont moins d'années de formatage derrière eux.
Ouais, ça dépend de l'âge, j'ai l'impression.
Ouais,
j'ai l'impression que déjà après les 6-7 ans, ça devient plus difficile.
Ah, ouais.
Avant, ils sont plus curieux.
Ils sont plus ouverts,
Mais quand même, globalement, oui, ils osent plus. Quand on leur propose de faire des sons bizarres, ils osent plus vite.
Oui.
Ils osent plus vite que les adultes, ça c'est sûr.
Je précise ça parce qu'on est en train d'enregistrer actuellement dans un collège de Montreuil la fanfare de la Touffe de Fabrice Charles, et on diffusera ça fin juin, début juillet. Et on a affaire, cette semaine-là, on a eu affaire à ces expériences-là. Revenons à l'œil collectif. J'ai vu sur votre site que vous parliez de votre engagement. C'est un engagement qui, par nature, s'accorde peu avec le principe d'argent. Sur Radio Libertaire, ça nous intéresse qu'on développe cette notion-là.
Oui. Nous, clairement, on a remarqué qu'il y a quelque chose... presque comme une énergie différente, quoi, quand les gens viennent faire leur musique, viennent écouter la musique, viennent nous quand on organise, quand on sait qu'il n'y a pas de... Quand on sait qu'il n'y a pas d'argent derrière tout ça, ou juste le minimum pour que personne n'y perde, c'est pas du tout la même ambiance qui naît. C'est comme si on était tous plus sur un pied d'égalité. Ouais, ou quoi. Parce que s'il y a des musiciens qui viennent, qui veulent un cachet, alors nous, on a l'impression de devenir des programmateurs.
Ouais, ouais.
Et ça met une distance dans la rencontre. Voilà. Puis simplement, nous, on n'a pas envie de... Enfin, on fait ça un peu sur le côté aussi. On n'a pas envie de passer des heures et des heures à demander de l'argent à gauche, à droite et tout ça. Et
donc, il y a des musiciens de renommée internationale ou je ne sais pas quoi qui sont passés vous voir dans ces conditions-là. Ouais.
Oui, alors on a eu... à chaque fois, c'est parce que, encore une fois, quand c'est des musiciens qu'on a rencontrés à Mulhouse, comme Chris Corsano ou Mette Rasmussen.
Ah ouais, quand même, ouais.
Oui, qui savent qu'on est là, et du coup, quand ils font une tournée en Europe, on leur propose de passer là. Et,
super, ouais.
Et, bon, on a quand même une petite caisse où on a un peu d'argent de côté, où là, on sait qu'on peut leur promettre un minimum d'argent, quoi. Pour qu'ils n'y perdent pas, en tout cas.
Oui, voilà. Ouais, ouais.
Et comme ils savent avec quel état d'esprit on fait ça et tout, et ben, ils viennent volontiers, en fait.
Oh, c'est super. Donc, super. Voilà. Bon, on va écouter un peu de musique. Qu'est-ce que tu proposes aussi? On n'a pas décidé avant. On va parler de Bobby de Nazareth avant, après, mais peut-être on est sur le collectif.
Du coup, oui, on peut écouter OKGB. C'est un projet qui réunit tous les musiciens de le collectif.
D'accord.
Et c'est... On est à 2 batteries, 3 basses, clarinette, saxophone. Donc c'est assez... c'est un projet qu'on joue plutôt en fin de soirée, en général.
2 batteries, 3 basses. 2 batteries et 3 basses. Je suis curieux de voir s'il n'y a pas de groove, s'il n'y a pas de rythme. Ouais. Tiens, on va voir ça.
Ah bah oui, non, ça c'est plutôt axé là-dessus. Mais...
Thank you. Yeah.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec notre invité aujourd'hui, le bassiste Louis Frère. Alors, on va parler du groupe que tu mènes, qui s'appelle Bobby de Nazareth, qui serait, selon les informations, qui serait le frère de Jésus.
Oui.
Alors, je voudrais savoir, Louis, qu'as-tu avec ce personnage fantasmatique de Jésus ?
Jésus ou Bobby ?
Ah bah, Jésus et Bobby, comme ils sont frères, j'imagine que leur histoire est intimement liée.
Ah bah évidemment. Donc, d'après les informations qu'on a, c'est pas complètement sûr non plus.
Ah non, oui.
Non, bah non, c'est jamais sûr avec tout ça, mais voilà. Donc, le jour de la naissance de Jésus, donc le 25 décembre de l'an 0.
Ouais.
Ah, plutôt le lendemain, il y a trois mecs qui sont venus, là, les trois rois mages.
Ouais.
Et il y en a un qui a profité du fait que Marie était encore un peu à l'ouest de l'accouchement.
Ouais.
Enfin voilà, je vous passe les détails, mais 9 mois plus tard, il y a le petit Bobby qui est né.
Ah merde, ouais.
Ouais. Et donc voilà, il est né, il est resté caché de,
ah oui, bah bien sûr.
De la société, tout ça, parce que c'était quand même un peu la honte.
Bah, ouais.
Et donc il a grandi dans l'ombre de son grand frère Jésus, même si Jésus l'aimait bien vu qu'il aime tout le monde et tout ça. Et donc voilà, c'est un peu parti de ce délire là en gros.
Et donc c'est l'histoire de Bobby, voilà.
Ouais, c'est en fait donc.
C'est le cinquième évangile, si je comprends bien.
Exactement, l'évangile selon Bobby. Et donc je me suis basé sur tout cet univers pour écrire de la musique.
Oui, ouais. Bon alors oui, c'est... Oui. Oui, alors le premier album, La Passion du Kyste.
C'est le deuxième, ouais.
C'est le deuxième, La Passion du Kyste.
La Passion du Kyste, ouais.
Ouais, tu peux nous expliquer ça? Oh bon, si tu veux. Ouais, alors, ouais, La Passion du Kyste. Bon, quand même, ouais. Il me semble qu'il y a une certaine joie de vivre qui est revendiquée dans cette musique-là. Et tiens, ça résonne avec ce dont on parlait en antenne. Est-ce que tu crois que ça manque de manière générale dans les musiques singulières actuellement, une joie de vivre ?
Je ne peux pas me permettre de vraiment juger les musiques actuelles en général. Enfin,
ouais, non.
Mais oui, il y a forcément un côté très sérieux, hérité un peu de la musique contemporaine,
ah, ouais.
de ce milieu-là, des fois qui peut être un peu pesant, c'est clair.
Ouais.
Et moi, j'aime quand même bien déconner, surtout avec les gens avec qui je fais ce groupe-là. Et du coup, c'est l'occasion de bien mettre les pieds dans le plat comme il faut, en proposant quand même quelque chose de...
Ah oui, de qualité.
De
oui,
qualité, oui. Ouais. C'est quand même un détail important.
Oui, un détail, c'est quand même pas mal. Ouais. Et alors, tu parlais des gens avec lesquels tu es. Tu peux nous dire, les membres du groupe, quelle est la formation ? Et j'aimerais savoir aussi quel est le mode... comment vous composez ? Quel est le mode de composition ?
D'accord. Alors, dans le groupe, actuellement, on est 6... Il y a donc un gars qu'on nomme Volovent, qui c'est un MC à la base,
ah, d'accord.
C'est son nom de scène, qui s'occupe de tout ce qui est du texte et qui récite le texte. Et puis, il faut savoir que sur scène, on a construit un castelet de marionnettes
et
tout ça, donc il gère les marionnettes aussi. Il y a Xavier Fertin à la clarinette, Manu Henrion au trombone, et puis Tom à la batterie, Tom Malmandier dont on a parlé, et Sylvain Hanen à la guitare,
d'accord.
Qui est aussi un complice de longue date. Et donc moi-même à la basse électrique. Et alors là, clairement, c'est toujours un projet que c'est moi qui ai mené. Pour le processus de composition, ça a varié avec le temps, parce qu'au début, on habitait tous à Liège, alors on se voyait, on jammait un peu, on trouvait une idée qui était sympa, on construisait à partir de là, il y avait tout un processus de groupe.
Mmh.
Puis à partir de là, moi, j'amenais d'autres idées, parfois. Et puis après, en fait, Sylvain et moi, on est allés vivre en Suisse. Xavier était en Suisse aussi, mais les autres en Belgique et tout ça, donc on avait genre... une semaine de répète, et puis le set devait être terminé, quoi.
Ouais.
Donc là, j'ai vraiment tout composé à l'avance.
Ah, ok.
En me basant donc sur l'histoire, j'ai un peu revisité l'histoire de la passion du Christ,
du Christ,
donc jusqu'à la mort de Jésus. Donc j'ai un peu revu ça avec une vision un peu plus drôle.
Ouais, y a moyen. Hein.
Et sur chaque petite scène, ben j'ai écrit une musique quoi.
Mais c'est narratif alors donc.
C'est assez narratif.
D'où l'histoire du Castellet et des.
C'est ça, ouais. Oui. On a vraiment des marionnettes qui expliquent l'histoire et tout ça.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Et en concert, il y a les marionnettes, il y a l'histoire, il y a tout ça.
Ah oui, c'est vraiment, ça fait partie intégrante du spectacle.
Tu parlais de composition, j'aimerais savoir, est-ce que tu écris les partitions ?
Là, j'écrivais les partitions parce qu'il fallait que je les envoie simplement, vu qu'on était à distance. Mais sinon, pour d'autres compositions, j'aime bien juste peut-être d'écrire pour moi, mais quand même que ça reste vraiment de la transmission orale.
Ah oui.
Pour moi, c'est important, même quand c'est écrit, quoi, en fait.
Ah oui, d'accord.
Côté oral. Des fois, c'est juste des idées que je mets sur papier, mais voilà, qu'on travaille ensemble de manière orale, quoi.
Ouais. Alors, vous avez sorti deux disques ou trois ? Deux ?
Deux.
Deux. Deux disques. J'aimerais savoir dans quel format. Et est-ce que c'est dématérialisé, comme on dit, sur Internet ? Ou est-ce qu'il y a un CD ? Ou est-ce qu'il y a un vinyle ? Et j'aimerais savoir si vous avez, ou si tu as toi-même une réflexion par rapport à ça, au format des disques.
Oh oui, alors on l'a, il est disponible sur Internet, sur le micro-label, on va dire, de l'œil collectif, Label Borgne.
Ah oui, voilà.
Donc ça, on peut l'écouter et le télécharger à prix libre sur Internet, parce que moi, clairement, pour ce projet-là, le but, c'est juste qu'on puisse écouter cette musique-là. Je m'en fous un peu de faire de l'argent dessus. Mais par contre, je garde quand même un grand attachement à l'objet physique.
Mais oui. Ouais.
Parce que, je sais pas, ça met, quand on voit l'objet, ça met déjà dans l'univers propice à écouter cette musique-là. Mm-hmm. Puis, je sais pas, ça renforce l'univers, je trouve, d'un album, d'avoir le matériel, quoi, le support matériel.
Ouais, ouais.
Et du coup, pour ces deux albums-là, on les a fait nous-mêmes, à la main.
D'accord, en CD ou en vinyle ?
En CD.
CD, ouais. Ah oui, d'accord. Okay.
Le premier, c'était bien Roots. On prenait des bouts de carton qu'on découpait, qu'on agrafait, et puis on collait la photo dessus. Et le deuxième, c'était un peu plus subtil, mais toujours dans le même esprit, quoi.
Dans le même esprit. Et tiens, j'aimerais savoir quelle est ta position par rapport au fait de protéger ces compositions. En France, nous avons la SACEM. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique. Mais...
La SABAM.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Ouais. Peut-être que l'idée n'est pas tout à fait bête à la base, mais que c'est détourné d'une manière vraiment malsaine, je dirais.
Ouais.
Ou en fait, c'est plutôt imposé que proposé, je dirais, par ces sociétés-là, quoi.
Ouais, ouais. Et puis aussi, nous, on s'est posé la question de déclarer très précisément quellement, parce qu'on a des musiciens qui galèrent, hein, tout simplement. Mm-hmm. Donc s'ils pouvaient gagner un peu de fric avec ça, ce serait pas plus mal. Mais après, moi, je suis protégé ces compositions. Je suis vraiment pas. Je suis partisan de ça, quoi.
Oui, ça, il y a la question de la propriété qui se pose. Est-ce que c'est vraiment à toi, enfin.
Oui. Bon. Tu as évoqué le label Borgne. Est-ce que tu peux nous dire deux mots ? Qu'est-ce que c'est ?
Ouais, simplement, voilà, comme Bobby de Nazareth et d'autres projets du collectif, on faisait des CD, des albums, et on avait envie d'avoir une plateforme commune partager ça, quoi.
Ouais. Ouais. C'est une
micro-label, mais on n'a aucune structure à proprement parler. On n'a aucun sou pour ça, rien du tout. C'est juste pour la diffusion, quoi.
Ouais, ouais. Bon, alors Laurent, je crois qu'on va écouter un morceau de Bobby de Nazareth. Tu peux nous dire qu'est-ce qui lui arrive au frère de Jésus dans ce qu'on va écouter ?
C'est simplement le morceau c'est la crucifixion, quoi.
Ah merde, parce que lui aussi il est.
Ah non, c'est Jésus qui se fait.
Ah, c'est son frère.
Oui. Oh, bon, non, c'est pas Bobby.
Tu nous rassures parce que.
Ah non, le deuxième crucifié.
Ah non, j'espère que Bobby va s'en sortir mieux que ça.
Mais même Jésus s'en sort. Hein.
Oh merde.
Ah ouais.
Ah ouais, ça, bon. Ouais. Okay. Bon, bah, écoutez, on va avoir une révélation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Ouais, Jésus, mais bon, il s'en sort en fait, quoi.
En chemin, ça se chamaille sec. La maturité éloigne d'une certaine matrice réconfortante de ses onguents. S'ensuit un combat sans récompense, des questions sans réponse en suspens, dans un environnement belliqueux qui nous convient si peu, ne nous convainc pas, qui nous contraint à s'embarquer pour des ailleurs, débarrassés d'œillères, d'autres entrains. Les mélancolies d'hier font dès lors place à une chaleur de l'ordre de la légèreté consciente. Un chant, une danse, un espace décloisonné. De quoi sortir du cloaque. Jusqu'à la déraison de croire en un certain espoir. Horizon flou, promesse
crucifixion.
Bah ouais, bah oui, alors on s'est trompé en plus, je crois, c'était pas ça.
Oui, c'était la résurrection là. Je sais. C'est
bon.
Pas grave.
Ah bah merde alors. Bon bah tant pis. Bon, alors c'était Bobby de Nazareth. Est-ce que tu as d'autres groupes dans lesquels tu joues? J'ai noté Garbage Band.
Ouais, alors Garbage Band. Malgré le nom, c'est pas vraiment un groupe en fait.
Eh ben oui, c'est un solo. C'est carrément un solo.
C'est carrément un solo, mais je joue tous les instruments dessus quand même.
Ouais.
Donc voilà, c'est comme avec le solo sur la basse acoustique, comme je me suis retrouvé pas mal seul à la maison.
Ouais. Ah oui.
Et que, outre le fait d'improviser, j'aime bien d'écrire des morceaux aussi. Et ben là, je me suis dit que j'allais faire ça tout seul avec mon ordi.
Ouais.
J'ai chopé quelques micros et puis quelques sons sur Logic et voilà, j'ai composé à partir de ça.
Oui, ouais. Alors moi, il m'a semblé entendre des sons comme du clavier, un ton différent en fait de ce que tu fais d'habitude, plus de sonorités issues d'univers musicaux différents, on va dire.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que j'ai vraiment des goûts musicaux assez variés, quoi. Effectivement, des fois, j'écoute des trucs d'impro très expérimentaux, mais j'adore écouter Madonna et Prince aussi. Et donc, toutes ces sonorités-là, j'adore. Les années 80 et tout ça, j'adore vraiment.
Ouais.
Et alors, c'est assez marrant parce que quand on regarde, effectivement, sur des programmes comme Logic et tout sur l'ordi, tu peux vraiment avoir les clichés de ces sons-là, mais ça, c'est un côté vraiment dégueulasse, quoi.
D'accord. Ouais.
Et moi, ça m'intéressait d'essayer de faire de la musique à partir de ça, en fait.
Ouais.
Parce qu'il y a un côté qui me plaît. Ça refait ressortir le gamin en moi quand j'entends ces sons-là.
Mais alors, donc c'est pas du tout un... C'est plus un travail de montage, si je comprends bien.
Non, mais à partir de ces sons-là, je pouvais créer des mélodies, des rythmes et tout ça.
Ouais.
Et voilà, c'est ça que je faisais.
Ouais. Bon, on va écouter, mais j'aimerais aussi qu'on parle d'un autre groupe qu'on écoutera en fin d'émission, peut-être. C'est Escargot.
Ouais. Alors ça, c'est un groupe avec encore Tom Malmandier à la batterie, Xavier Fertin à la clarinette, et puis Camille Maille, dont on a parlé au percu, oui. Et Timothée Coste.
Ah, bon, génial, ouais.
Ouais, trompettiste. Et voilà, là, le CD, on vient de sortir un CD qui s'appelle Dart Love, et qui est aussi improvisé.
Là, c'est complètement improvisé
ouais. Qu'on a enregistré au Canada l'année dernière. On a fait un voyage là-bas, plusieurs concerts.
Ah d'accord, oui.
Et on va faire une tournée de sortie d'album en septembre.
D'accord. Ok, on écoutera en fin d'émission, en septembre, d'accord.
Ouais.
Timothée nous avait parlé du Canada quand il était passé dans l'émission.
Oui, voilà. Oui.
On écoute maintenant Garbage Band, et puis ouais.
Un titre en particulier. On peut écouter Petroni ou Archibald. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, avec notre invité aujourd'hui, Louis Frère, le bassiste Louis Frère. Alors, eh bien, j'aimerais savoir, avec l'OIK, vous organisez, l'OIK collectif, vous organisez un festival à Oui. Et je voudrais savoir si vous avez organisé, je voudrais savoir si ça existe depuis longtemps, si vous allez le refaire, et dans quelles conditions vous faites ça.
Alors, c'est un festival qui a lieu à Tilf, mais qui s'appelle Oui Festival.
Ah, d'accord.
Ouais.
Merde, j'ai rien compris. Mais... Ouais.
Et donc, on l'a fait l'année dernière. On n'a pas pu le faire cette année, mais on compte bien le refaire l'année prochaine. Ouais. Ça se passe dans une petite église et salle des fêtes dans le quartier où j'ai grandi, à 10 km de Tilf.
Ouais.
Et donc, là encore, il y a l'idée d'amener toutes sortes de musiques à des gens non seulement du quartier, mais aussi faire découvrir aux gens de Liège et des environs ce quartier, cet endroit qui est assez insolite.
Ouais.
Et puis, on aime bien aussi de mélanger plein de choses très différentes là, dans ce festival. Donc, il y avait un chanteur de folk qui est venu. Mais juste avant, il y avait le Costet, par exemple, qui était venu, de Timothée.
Ouais.
Et puis, il y a de la danse. Il y avait un gars qui jouait dehors, il s'appelle... Le groupe s'appelle l'Armée du Chahut et il récite des poèmes, il tape sur une échelle. Donc voilà, on propose un truc le plus large possible pour que tout ça se mélange.
Ah ouais. Alors c'est fait à l'arrache ou est-ce que vous avez un peu de sous, des subventions par exemple ou quoi ?
On n'a pas de subvention. Je crois que ça serait possible d'en avoir, mais...
Ça veut dire remplir des dossiers et tout ça.
Oui, enfin c'est pas qu'on est fainéant, mais c'est qu'on a déjà beaucoup de choses à faire comme ça que pour remplir des dossiers et on se débrouille sans en fait.
Oui, voilà.
Donc ça c'est intéressant aussi.
Ouais.
On peut très bien se débrouiller sans avec l'aide de. Enfin, ça fait appel à la collectivité en fait à cette valeur là et c'est ça qu'on aime bien. Quoi.
Et alors par rapport à ça, moi je voulais savoir si parce qu'on n'a pas des Belges tous les jours, si la culture est aidée en Belgique.
Moins qu'en France.
D'accord. Ouais.
Là, quand je vois en France toutes les scènes nationales, les fracs pour les musées et tout ça, enfin moi j'étais pas mal à Strasbourg et quand je vois aussi la qualité de la programmation, plus de trucs comme l'opéra ou enfin les grandes scènes ou la filature à Mulhouse, ils osent prendre plus de risques, je pense qu'en Belgique parce qu'ils ont plus de moyens à mon avis.
Ouais.
Et puis il faut savoir qu'en Belgique aussi il y a ce phénomène de la Wallonie et la Flandre.
Ah oui,
la Wallonie ayant beaucoup moins de moyens financiers que la Flandre. Voilà, là en Wallonie on n'est vraiment pas beaucoup aidé globalement.
Ah d'accord.
Ou ça va juste aux très gros trucs.
Ouais, les gros,
ouais.
Gros festivals et tout ça. Mm-hmm. Et alors est-ce qu'il y a une activité, tu veux parler de Liège tout à l'heure, est-ce qu'il y a une activité musicale, artistique, j'ai pas l'impression, mais d'après ce que tu disais, qu'en est-il de la vie culturelle à Liège et musicale en particulier ?
Bah si, en fait j'ai insisté sur le fait que la ville était assez petite,
ouais.
Mais par rapport à la taille de la ville,
il y
a quand même pas mal de choses qui se passent. Ouais. Là, nous on fait ce qu'on fait là, avec le collectif, mais il y a d'autres gens qui font qui organisent des choses et tout ça aussi dans le domaine de la musique expérimentale et puis aussi dans d'autres domaines, le rock, tout ce qui est aussi le slam et tout ça, c'est très vivant à Liège. Et donc il y a comme une petite communauté de gens qui aiment bien se bouger le cul pour qu'il se passe quelque chose, quoi.
Et donc vous dans ces domaines des musiques bizarres et tout ça, vous êtes un peu à peu près les seuls quand même? Oui, est-ce qu'il y a une émulation d'autres ?
Il y a une émulation quand même, non, on n'est pas les seuls.
Tu parlais de Tom Malmandier, Farida Amadou, ils jouent souvent en France. Alors, je ne sais pas s'ils habitent toujours à Liège.
À Liège, oui. Ouais.
Mais on les voit assez souvent. Est-ce que toi-même, tu as des envies d'expatriation, d'exportation ? Je ne sais pas comment dire.
Oui, à fond. J'adore ça. Pour moi, ça fait presque partie du métier de musicien, quoi, de voyager, d'échanger comme ça.
Ouais.
Ce qu'on aime bien avec l'œil collectif, c'est de faire des échanges aussi entre collectifs. Là, par exemple, on joue dimanche au Petit Balcon. Donc, moi, je vais jouer avec Timothée et une bassiste qui s'appelle Olivia.
Olivia, c'est Mama.
Oui, c'est ça.
Oui, je connais bien.
Et après, il y a Farida qui joue avec un de ses projets aussi. Et donc voilà, c'est Morgane Carnet qui organise ça. Donc c'est un lien avec le collectif 2035 et aussi qui se construit. Ils sont venus la semaine dernière en Belgique.
Ah d'accord. Oui, tu sais qu'on les a reçus. On a reçu Morgane et puis Where is Mr. R il y a quelques temps. Nous, on aime bien promouvoir les gens qui ne sont pas encore trop connus. Hein, on n'attend pas que les gens soient connus pour les passer dans notre émission. Dieu. C'est comme ça qu'on a passé il y a 10 ans. On a invité Quax, par exemple.
Ah, oui.
Bref, je ferme la parenthèse. Là, par exemple, tu parles de ton concert de dimanche, c'est... Il y a un nom, alors j'ai vu, j'étais un peu étonné, il y a un nom à ce groupe, c'est Bassi.
Ouais, alors je dirais pas exactement c'est le nom du groupe, c'est plutôt le nom du morceau qu'on va jouer.
Ah bah d'accord.
Parce que, comme je te disais, là c'est un truc qui m'intéresse pas mal, le rapport qui existe entre l'improvisation et la composition. Enfin, pour moi, les deux sont tellement liés que des fois ça n'a pas de sens de les séparer, quoi. Et du coup, là, je m'interroge un peu sur la possibilité d'écrire comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, des formes ou des consignes ou quoi qui peuvent être interprétées assez librement. Et c'est le cas de ce morceau-là, quoi.
D'accord. Donc, est-ce que vous avez répété, par exemple ?
J'aurais bien aimé, mais malheureusement,
vous n'aurez pas le temps.
On n'aura pas le temps. Mais j'ai envoyé la partition à l'avance pour que tout le monde puisse bien regarder.
Ouais.
Parce que c'est quelque chose qui peut aussi bien se jouer en solo qu'en trio, comme on va le faire.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Donc, voilà. Donc ça, c'est... compte là-dessus.
C'est dimanche au Petit Balcon. Donc alors là, c'est pas le cas de ce que je vais te dire, mais il t'arrive certainement d'avoir des rencontres totalement improvisées avec des musiciens. Et j'aimerais savoir comment tu appréhendes ça. Qu'est-ce qui fait que tu vas jouer avec tel musicien ou tel autre ? Est-ce que c'est un hasard ? Voilà, on se met ensemble, on joue. Est-ce qu'il y a une idée esthétique par rapport aux instruments aussi, au jeu des musiciens ? Comment ça se fait, ça ?
Il y a un peu les deux. Il y a vraiment le fruit de la pure rencontre, quoi. Comme quand on se parlait une soirée, et puis tu joues, t'improvises aussi. Ok, on se cale une session, on voit ce que ça donne. Et donc là, partir sans a priori et jouer juste comme ça c'est quelque chose que j'adore.
Ouais.
Et puis, des fois, il y a des musiciens où je remarque qu'il y a un point commun assez particulier entre sa musique que j'entends et la mienne.
Ouais, d'accord.
Et du coup, là, parfois, c'est l'occasion de se dire, ok, on creuse un sillon, quoi.
Ouais. Et alors... Peut-être ma dernière question sera est-ce que tu as creusé des sillons ? Est-ce que tu as des projets à venir, des groupes que tu as dans le coin de ta tête ?
Là, justement, il y a Escargot dont on vient de parler un peu plus tôt.
Ouais.
Où on va faire une résidence cet été pour préparer la tournée. Et donc, la musique qu'on a enregistrée pour l'album.
Ouais.
Est complètement improvisé, mais là on a justement envie de creuser un sillon par le biais de la composition, mais pas que, de voir comment on peut vraiment se créer, enfin pas créer, mais trouver notre son de groupe, quoi. Il y a des groupes comme Where is Mr. A, justement, où ça je trouve ça génial, ils ont vraiment un son de groupe très fort, quoi, je
c'est
trouve,
vrai,
ou un groupe comme Dans les arbres aussi.
Et est-ce que tu as d'autres projets ou des concerts à venir que tu peux nous annoncer dès à présent ?
Oui, tous les concerts que j'ai, c'est avec l'œil collectif à Liège pour l'instant.
Ouais.
C'est,
Tu sais qu'on est écouté dans le monde entier, donc tu peux y aller.
Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va faire le prochain ciné-concert là, le 4 juin à Liège, au Hangar. On va faire une soirée avec le groupe OKGB qu'on a écouté le 14 juin à l'Anvers, où on va collaborer avec des danseurs et des danseuses. Donc, ça, Voilà, dans le but que ça danse. On va... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? J'ai plus en tête, mais il y a d'autres choses.
Bon, alors, est-ce que le site de l'œil collectif est à jour au niveau des agendas?
Je vais m'occuper de ça ce week-end.
J'allais dire aux éditeurs d'y aller, mais j'ai un peu de scrupule parce que pour y avoir été, j'ai vu que c'était
pas très... malheureusement. Bon. Je dirais juste pour ça qu'être jeune père, ça permet pas de tout faire.
On comprend bien. Mais bon, on encourage quand même les auditeurs à aller. Parce qu'il y a tous les musiciens et tous les projets.
Oui, et sur notre page Facebook, on annonce toujours les concerts. Là, le lieu le plus sûr pour ça.
Voilà, mais tout le monde n'a pas Facebook encore.
Oui, mais il y a quand même moyen de voir.
Il y a quand même moyen. Laurent, est-ce qu'on a des annonces ? Peut-être tu fais un concert, toi, tu te souviens que tu fais un concert.
Non, c'est vrai, je me souviens maintenant, je joue demain. Oui. En fait, on ne m'entend pas de toute façon, mais il y aura des gens super qui vont jouer. Je parle trop fort, c'est ça ?
Non, vas-y.
Ah bon, d'accord. Notamment Romaric Sobach, qu'on connaît bien, c'est un peu l'étoile du groupe Fripon de Port qui joue à l'Harmonie demain soir, donc à Montreuil. L'Harmonie, c'est un bar... rue Édouard Vaillant, si je me trompe
c'est
pas.
C'est
super.
Alors, Fripon de Port, c'est Yedrek.
Yedrek, il doit y avoir Jacques Pochat. C'est un groupe un peu protéiforme. Comment ?
Charlie Sheen.
Charlie Sheen à la guitare. Il y a tout un tas de... En fait, c'est super, mais ça change tout le temps. Alors, des fois, il y a des machines, des fois, il y a des saxos, des fois, il y a des guitares.
Bon, je t'apprends qu'il y aura également Xavier Musa qui jouera avec toi. Hein. Bon.
Ouais, je crois qu'il fait une première partie ou une deuxième partie,
je crois qu'il intégrera les Fripon de Port.
Ah, carrément dans le groupe, quoi. Ah bon, ok. Voilà. Ok, c'est super, bienvenue à lui.
Xavier Musa sera en duo avec Jacques Pochat également.
Ah bah, tu vois.
Et il y a également...
Cathy Eden à la saxo.
Oui, bien sûr.
Ouais. Ah bah elle a joué souvent avec les Fripon de Port. Hein.
Bon, voilà. Donc ça c'est demain soir à l'Harmonie à Montreuil. Et moi j'annonce le concert concurrent. Ah. Puisque nous parlions de Morgane Carnet et d'Olivia Semama, elles font un duo inédit puisque Morgane joue de la batterie. Ce sera la première fois qu'elle va jouer de la batterie en public. Donc ça c'est demain au Petit Balcon, en même temps que ton concert, Laurent.
Ouais. Donc 10 rue du Liban. C'est Amélie-Montant.
Rue du Liban, voilà. Ramène le montant. Est-ce qu'il y a d'autres trucs annoncés ? Moi, j'ai rien.
Je me souviens plus, mais demandez à Jean-Jacques, non ? Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de se connecter avec notre ami Jean-Jacques, dont le travail est vraiment remarquable, l'agenda impressionnant, et on peut que louer cette initiative brillante et recommander à chacun de s'y inscrire.
Il faut demander à Jean-Jacques qui se faut donner son.
Alors jjjfree@gmail.com. Voilà. Et vous ne serez pas déçu.
jjj.free@gmail.com et Jean-Jacques vous envoie plusieurs, une ou deux fois par semaine son agenda à jour et c'est vraiment très... Nous, on se sert de ça en fait pour les concerts. Bon, la semaine prochaine, à la demande de Radio Libertaire de la Fédération Anarchiste, la Fédération Anarchiste a proposé aux animateurs des émissions de Radio Libertaire d'évoquer, j'allais dire commémorer, mais non, ça c'est dans les médias officiels. Nous ne commémorerons pas, nous évoquerons mai 68. Et dans les oreilles libres, nous allons faire ça la semaine prochaine, le 25, et nous aurons l'honneur, le plaisir, et vraiment l'immense plaisir de recevoir François Tusk, qui crée un spectacle 8 mai 68. Et il sera accompagné de Claude Parle dans notre émission, qui l'accompagne également dans ce spectacle. Nous aurons également Pablo Cueco et Mirta Pozzi. Et enfin, Dominique Grimaud, qui nous apportera un éclairage sur plutôt le côté rock underground. C'est la semaine prochaine. Ne manquez pas cette émission sur mai 68. Il nous reste à nous dire au revoir, Louis. J'étais vraiment content de te recevoir. Ça fait quelques mois que nous étions en contact sur internet et vraiment merci d'être venu
avec plaisir, ça me fait plaisir aussi.
Et puis moi je viendrai te voir dimanche au Petit Balcon.
Super.
À 18h je crois, 18h30
sans doute, oui.
Je suis plus au courant que vous. Merci Laurent Pascal qui faisait la technique aujourd'hui et on se quitte avec Escargot.
Oui, le premier, piste 6.
Ouais. Allez, salut.
Thank you.